Bonjour, nous sommes très heureux, je suis très heureux de vous retrouver sur IDFM Radio pour Mission Planète Terre, donc et pour une nouvelle saison de Mission Planète Terre. Alors aujourd'hui on reçoit Hicham Ennakla. Hicham Ennakla, il est originaire de Montpellier. Il a été le lauréat national des talents des cités 2024 et le prix a été remis par Emmanuel Macron, le président de la République, le 27 novembre 2024. Alors il avait un projet de start-up, il va nous expliquer ça dans un instant, qui s'appelait 420 arbres et qui a séduit le jury lors de la finale nationale à l'Élysée par son approche innovante et son impact environnemental. Son initiative, elle propose des solutions concrètes pour reverdir nos villes et sensibiliser les acteurs locaux à l'importance de la biodiversité. C'est en effet notre sujet du jour, comment la ville s'adapte au changement climatique et comment la ville peut récupérer de bonnes pratiques autour d'elle, dans le monde entier même, puisque Hicham regarde un peu aux quatre coins du monde ce qui se passe. Bonjour Hicham.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Hicham, est-ce que vous pouvez un peu compléter cette courte présentation que je viens de faire? D'où vous vient au départ cette séduction ou cet intérêt en tout cas pour l'environnement et pour la nature, surtout en ville?
Je crois que vous avez été assez précis, hein, en tout cas sur la dernière actualité. Je vous en remercie, Olivier. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, une partie de mon enfance, avec un père pépiniériste, hein, qui m'a très tôt initié en fait à la diversité des arbres, du patrimoine arboré, ce qui m'a profondément marqué. Et puis, en devenant adolescent adulte, je suis installé en ville et du coup j'ai été marqué par le manque de nature qu'il pouvait y avoir. Alors je l'ai identifié bien évidemment pas comme je vous le dis, c'est-à-dire que ça a été progressif. J'ai identifié cela par le biais de ce qu'on appelle le déficit de nature, c'est ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, en fait c'était assez marquant puisque on était en 2003, on a la période des canicules, des premières canicules. Et c'est vrai que dans ma rue, en fait, les derniers végétaux qu'il y avaient été rasés, c'était des palmiers. Donc on se retrouvait dans une rue sans végétaux, minéralisée, et on découvre les îlots de chaleur. La chaleur qui remonte le soir durant les nuits d'été. Et l'impact que ça pouvait avoir sur la population, on manque de confort, on dort pas très bien, les gens sont assez tendus, on le sent dans les rues. Voilà pour expliquer pourquoi j'en suis venu à la nature en ville.
Donc c'était un projet de start-up au départ, c'est ça, pour l'opération Talents des Cités?
Exactement, tout à fait. 420 arbres, en fait, on s'est donné comme objectif en fait de proposer toutes les solutions, ou en tout cas d'identifier toutes les solutions existantes. Puisque c'est vrai qu'on est dans une époque où on parle beaucoup de végétalisation, mais de planter des arbres, et il existe pléthore de solutions. Et on avait identifié que finalement, c'était toujours les mêmes solutions qui étaient appliquées, alors qu'il y avait des solutions qui pouvaient être plus efficaces suivant les contextes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant de pousser ces solutions et de lancer donc cette start-up qui s'appelle 420.
Juste par curiosité, Hicham, pourquoi 420? Pourquoi pas 430 ou 400?
Ah, c'est une bonne question. En fait, on voulait raconter un peu une petite histoire parce que, si vous voulez, le magazine Nature.com référence le nombre d'arbres. Alors, c'est une estimation scientifique, hein, le nombre d'arbres par habitant sur la planète. Et en fait, en le divisant par le nombre d'habitants, on tombait à 421 arbres par habitant, donc par terrien. Donc pour nous, ça racontait une petite histoire que de dire si chaque habitant de cette terre, en fait, avait en charge de planter 420 arbres ou de protéger 420 arbres, ça pourrait nous permettre d'augmenter le nombre d'arbres sur notre planète.
Super. Alors, Hicham, vous vous intéressez donc aux solutions adaptées aux quatre coins du monde pour faire face à la surchauffe urbaine, de Rabat à Los Angeles, de Madrid à Médine. Alors comment les villes s'adaptent au changement climatique? Est-ce que vous avez pu recueillir donc de bonnes expériences et de bonnes pratiques? Et quel est le palmarès pour vous en fait de ces bonnes pratiques?
En fait, il est vrai que chaque ville va s'adapter à son contexte climatique géographique. Et du coup, des solutions qui pourront être appliquées au nord de l'Europe ne seront pas forcément les plus efficaces au Moyen-Orient, par exemple. Donc, pour nous, c'était intéressant de voir ce qui se faisait. Ce qu'on peut identifier principalement, les approches les plus efficaces combinent bien souvent des solutions vertes, des solutions bleues et grises. Alors, pour parler de solutions vertes, c'est la plantation de végétaux, d'arbres, mais pas seulement, il y a aussi les toitures végétalisées, les façades végétalisées et d'autres solutions de végétalisation. On a également les solutions bleues qui concernent les gestions de l'eau en milieu urbain, via des brumisateurs urbains, via les fontaines. De nombreuses villes en France d'ailleurs installent de plus en plus ce genre de dispositifs. Et puis en parlant de l'eau, il y a tous ces cours d'eau qui traversent nos villes. Et c'est intéressant de voir, puisqu'en plus on est dans un contexte justement avec Paris qui a créé des lieux de baignade sur la Seine et de nombreuses villes européennes qui veulent avoir leur lieu de baignade. L'eau, c'est un élément aussi important à prendre en compte, puisque pendant très longtemps on a fait en sorte d'éliminer l'eau rapidement de nos centres urbains. Là, l'idée, c'est de la retenir et de proposer des espaces de baignade. On est au début, je pense, d'un nouveau mouvement, même si certaines villes au nord de l'Europe ont déjà leur lieu de baignade. On voit Paris s'en empare, Bruxelles et d'autres villes, d'autres capitales ont déjà des projets dans ce sens-là. Donc, effectivement, les solutions bleues. Et puis, les solutions grises, qui sont celles d'utiliser des matériaux à fort albédo, des revêtements réfléchissants pour permettre de réduire l'absorption de chaleur sur les surfaces urbaines. Alors, bien évidemment, il y a quelques contraintes, pas forcément dans les quartiers habitables, mais voilà, les trois solutions. Et puis, il y a des solutions qui se développent un peu plus, comme utiliser le vent, élément naturel, pour pouvoir rafraîchir nos environnements urbains.
Je crois que c'est pas à Toronto, non, c'est en parcourant vos lettres, hein, Daily Green, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a un rafraîchissement, on rafraîchit avec l'eau du lac Ontario, par exemple.
Exactement. Ça, c'est un projet qui commence à dater. Je pense que d'autres villes dans le monde utilisent l'eau puisée dans le sous-sol pour pouvoir rafraîchir cette eau fraîche, pouvoir rafraîchir nos espaces de vie.
Et dites-nous, Hicham, j'ai l'impression que, est-ce qu'un arbre en ville, en fait, c'est la même chose qu'un arbre au milieu d'une forêt? Pour les racines, par exemple, l'enracinement et l'eau et la récupération de l'eau, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la terre qu'on va retrouver sous le bitume, elle correspond à pouvoir faire grandir un arbre ou pas?
C'est toutes les contraintes qu'on a en ville, hein, c'est-à-dire que bien souvent, la qualité du sol va jouer, évidemment. Alors ça, pareil, c'est des choses qu'on a du mal à généraliser, mais la qualité du sol en forêt et la qualité du sol en ville est complètement différent. On a des gros problématiques en ville, puisque
les sols sont
pas forcément... Voilà, exactement, les réseaux sont contraints, l'espace qui va être dédié à l'arbre peut être problématique, la qualité du sol. Donc c'est vraiment tous les enjeux aujourd'hui, et je pense que l'enjeu du sol en milieu urbain, mais dans les autres milieux, on va dire, est vraiment l'élément le plus important pour pouvoir permettre de faire pousser nos végétaux dans les meilleures conditions.
Et j'ai lu quelque part, en préparant ce rendez-vous avec vous, que parfois les jeunes arbres, les nouveaux arbres qui sont plantés en ville, y en a quelques-uns qui disparaissent et qui ne peuvent pas survivre, parce que justement, les conditions ne sont pas les mêmes que dans une forêt.
Exactement, c'est en plus un des sujets très contextuels avec le réchauffement de la ville, avec ces périodes caniculaires. C'est un impact considérable sur le développement des végétaux. Et effectivement, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Avoir un arbre en pleine rue, c'est, comme vous l'avez dit, des problèmes des contraintes d'infrastructures souterraines, de qualité de sol, d'arrosage. L'arbre, c'est pas un élément. Alors c'est marrant, parce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'individualisme et la solitude que les habitants des villes connaissent de plus en plus, mais un arbre n'est par défaut pas fait pour pousser tout seul. Il y a tout un système racinaire de connexion entre des différents végétaux qui permettent la croissance. Donc le milieu urbain n'est pas facile pour l'arbre urbain, ça c'est sûr.
C'est combien de degrés en moins en ressenti sous un arbre en fait quand on se promène dans une mini forêt urbaine comme il y en a de plus en plus dans les villes aujourd'hui en termes de degrés?
Ah ouais. Les chiffres qui sont donnés, c'est entre 2 et 10 degrés.
Carrément 10 degrés?
C'est là. Ça peut effectivement à 10 degrés suivant. Alors c'est toujours pareil en fait. Est-ce que ça va vraiment dépendre du contexte, mais en fait c'est à peu près les chiffres qui sont entre 2 et 8 degrés. C'est l'impact de l'ombrage qui protège les surfaces de l'exposition solaire. Ça c'est bon, à l'ombre, on connaît tous cette sensation de se mettre à l'ombre d'un arbre, et c'est pour ça qu'il faut plus d'arbres en ville, et puis le phénomène d'évapotranspiration, qui est le processus par lequel en fait l'eau s'évapore des feuilles, et ce qui permet de réduire la température ambiante. Voilà.
Donc l'arbre est un véritable climatiseur.
C'est certain.
Est-ce que vous pensez, Hicham, qu'il faut aujourd'hui repenser aussi la construction, l'urbanisation, l'aménagement des villes? On voit par exemple dans le sud de la France, quand on s'y balade, qu'il y a des petites ruelles, les rues sont plus étroites, les ouvertures des fenêtres sont plus petites, il y a des volets partout, ce qui n'est pas le cas. Hein. Quand on se promène à Paris ou dans les grandes villes, on manque encore de volets, il y a encore des appartements qui n'ont pas de volets. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que toutes ces techniques anciennes de construction, on devrait ouvrir davantage l'œil aujourd'hui là-dessus?
La question est très intéressante. D'ailleurs, c'était une discussion qu'on avait avec un directeur général des services généraux de la ville de Cuers. En fait, je parle de cette ville parce que c'est une ville qui est dans le Var et qui a mis en place ce qu'on appelle une démarche qui s'appelle ville basse température. Et effectivement, on s'aperçoit que les villes reviennent sur des pratiques anciennes, finalement, qui étaient des pratiques de bon sens. Effectivement, la place des volets pose effectivement question, et on en a probablement besoin. Donc, par exemple, il donnait l'exemple également de la villa californienne, ces grandes baies vitrées dans le sud de la France aujourd'hui. C'est compliqué, à moins de faire tourner la climatisation à fond. C'est plus forcément ce genre de construction qui correspondent à notre époque, cette époque où les villes se réchauffent. Quoi.
Merci Hicham. Hicham, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, une courte pause, et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de la végétalisation des villes et de l'adaptation de nos cités urbaines aujourd'hui au changement climatique. À tout de suite.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Eh bien voilà, on se retrouve sur IDFM Radio pour votre émission Mission Planète Terre, où on s'intéresse aujourd'hui à l'adaptation des villes au changement climatique. Notre invité, Hicham Ennakla, il est originaire de Montpellier. Il a tout petit pris l'exemple de son père qui était pépiniériste, il nous l'a dit tout à l'heure. Et puis il s'est intéressé donc à la nature en ville, à la végétalisation, mais à pas que, à la nature, à la biodiversité. Et Hicham Ennakla a été le lauréat national des talents des cités 2024, prix qui lui a été remis par Emmanuel Macron, le président de la République, le 27 novembre 2024, pour son projet de start-up 420 Arbres. Rebonjour Hicham, merci d'être avec nous.
Bonjour Olivier, merci, ravi d'être avec vous.
Alors, on parlait donc de la place de l'arbre, des degrés. Vous nous disiez que ça, on peut gagner entre 2 et 10 degrés en moins avec de la végétalisation. La plupart des villes, je prends l'exemple de Paris, mais les grandes villes aussi en ce moment, plantent des forêts urbaines. Donc sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, on a une superbe forêt urbaine et on en a, il y a des travaux partout dans Paris, il faut le dire en ce moment. Mais il y a d'autres exemples, je crois par exemple que Montpellier, il y a des fontaines ou des jets d'eau ou des jeux d'eau pour les enfants. À Grenoble, il y a des brumisateurs urbains et puis il y a aussi à Toronto, on en a parlé, le rafraîchissement avec de l'eau qui vient du lac Ontario. On a à Los Angeles des revêtements qui sont plus clairs et qui sont plus perméables, donc qui réduisent la température de surface des chaussées de 5 à 9 degrés. Et puis l'air ambiant, on dit d'environ 2 degrés en moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple? Medellin, par exemple, a des parapluies géants. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors oui, effectivement, c'est Medellin, en Arabie Saoudite, qui... alors, je ne connais pas exactement les contraintes qu'ils avaient, mais effectivement, probablement, il n'y avait pas de possibilité de planter des végétaux. Donc là, on utilise la technologie pour pouvoir créer de l'ombrage avec des ventilateurs et puis de la détection en fait, des ombrelles, qui sont des ombrelles immenses, se déploie automatiquement. Donc ça, c'était un exemple pour démontrer en fait une solution technologique qui avait été apportée pour pouvoir apporter de la fraîcheur pour les. Alors là, c'est sur des esplanades de prière, donc pour les croyants et les. Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez des jardins en ville? Vous savez, pendant un moment, on parlait de jardins potagers et puis des permis de végétaliser. Alors, je ne sais pas si ça marche bien, ça, les permis de végétaliser.
Alors ce dispositif effectivement est lancé dans de nombreuses villes françaises, consiste en fait à donner la permission aux habitants de pouvoir planter au bas de leur immeuble. Alors ce que j'en sais de nombreuses villes comme Montpellier, comme Paris, comme Grenoble et des villes moyennes et petites communes ont mis en place ce genre de dispositif. Ça marche plutôt bien. Puisque ça donne l'autorisation aux habitants de pouvoir planter en bas de leur immeuble. Donc, par exemple, sur Montpellier, on a des magnifiques murs végétalisés où on a planté du faux jasmin et qui s'élève à 3 à 4 mètres de haut. Donc, on a des rues qui sont entièrement végétalisées par les habitants. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne, qui mérite d'être élargi. Maintenant, je pense que il y a les contraintes du milieu urbain et que ça mériterait d'être élargi en termes de végétaux. Voilà, si je peux donner mon avis.
Alors, j'ai vu aussi, par exemple, à Madrid, il y a des arrêts de bus avec un système de refroidissement intégré.
Alors oui, tout à fait. Là, tout à fait.
Ça fonctionne comment avec des panneaux photovoltaïques ou?
Exactement, qui va apporter une forme de climatisation à l'abri. Oui, là on utilise la technologie en vue de rafraîchir, alors, en tout cas les gens qui patientent aux arrêts de bus.
D'autres exemples, les ombrières sur les rues à Rabat, ou bien encore de la restauration d'une rivière au cœur de ville à Séoul. Vous pouvez nous parler de cet exemple-là?
Alors l'exemple de Rabat, il est assez intéressant puisque qu'il est, pour moi, c'est faire finalement preuve de bon sens que de couvrir ces rues-là. C'est des pratiques qui sont historiques, hein, qu'on pratique depuis très longtemps, à la fois, que ce soit des structures pérennes ou des structures provisoires, pour pouvoir apporter l'ombrage dans ces petites rues. Quant au projet à Séoul, ben ça c'est un projet assez pharaonique qui pour moi reflète une volonté à la fois politique et un engagement des citoyens. Donc ça se passe à Cheonggyeong, à Séoul. En fait, c'est cette rivière-là qui originellement traversait la ville et qui a été recouverte dans les années 50-60. En vue de le transformer en route. Donc on a surélevé une autoroute, donc au-dessus de cette rivière cachée, passait une autoroute. Et en 2003, je crois, le maire de la ville décide de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de détruire l'autoroute et puis de recréer cette rivière historique en l'aménageant. Donc c'est un projet qui est assez fou à l'époque, puisqu'on n'est pas du tout dans cette démarche-là, qui est celle de dire « bon, on va enlever des autoroutes, on va enlever des routes » pour pouvoir faire passer un cours d'eau, même s'il était là bien avant. Donc aujourd'hui, c'est un cours d'eau qui fait 6 km de long, une promenade urbaine. Alors bien évidemment, la circulation, les transports en commun qui ont été mis en place, je crois que la promenade est traversée par 22 ponts, ce qui permet un retour de la biodiversité. Et donc les poissons, les oiseaux, les plantes, aujourd'hui, couvrent cet espace-là. Un impact sur la pollution et sur les îlots de salaire, bien évident. Et puis, c'est devenu aussi un lieu culturel, un lieu de détente très populaire pour les séoulites. Donc voilà, pour moi, ça reflète bien un projet qui mêle à la fois retour de la nature, permettre à la biodiversité de se réinstaller, un espace de cohésion sociale où les gens vont pouvoir se retrouver, et puis l'impact sur la chaleur qu'il peut y avoir dans une ville. Via ces îlots de chaleur et ces inconfort thermique.
Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler, Hicham, de la règle 3-30-300 ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une règle qui a été conçue par un personnage très intéressant que je vous recommande, Cécile Konijnejic, je suis désolé si j'écorche son nom, qui a conceptualisé, en fait, ou en tout cas qui a créé cette règle en disant qu'il faudrait, pour que chacun puisse avoir une ville équitable en termes de végétalisation, trois arbres qu'on pourrait observer depuis chez soi, en ouvrant la fenêtre par exemple, 30% de couverture végétale dans son quartier et être à 300 mètres d'un parc ou d'un espace vert. Ça donne une règle qui est vraiment intéressante, puisque c'est à mon sens très compliqué de trouver quelque chose qui puisse donner une directive. Alors effectivement, c'est pas forcément facilement applicable dans toutes les villes suivant les contraintes urbaines, mais ça peut donner une sorte de goal, d'objectif. Et puis le travail de ce chercheur est vraiment remarquable, donc voilà, pour en dire un peu plus sur la règle des 3-30-300.
Eh ben merci Hicham pour cette précision sur la règle des 3-30-300. Maintenant on va regarder depuis notre fenêtre si on a bien trois arbres déjà dans le à voir. Alors c'est pas évident. Je voulais parler maintenant de vos projets et puis donc votre lettre. Alors pour tous nos auditeurs et puis ceux qui sont intéressés pour apprendre davantage de choses avec vous et vous suivre. Donc il y a votre lettre qui s'appelle Daily Green et puis donc La Nature en Ville. Et maintenant vous avez aussi un podcast. Quel numéro de votre podcast vous en êtes à quel numéro là ?
Là on publie le sixième épisode ce vendredi. Donc l'idée c'est d'en publier un tous les deux semaines. Bon, durant l'été, ce qu'on a fait, c'est qu'on en publie un par semaine pour permettre, c'est qu'on a le temps de pouvoir écouter tous ces acteurs et actrices de la ville qui font que nos villes sont de plus en plus végétales. Et voilà.
Alors, je dois dire que c'est vraiment passionnant. Enfin, j'ai pas écouté la totalité, mais j'en ai écouté quelques-uns pour préparer cette émission. Et il y a des urbanistes, il y a des architectes, il y a effectivement un directeur général des services dans une collectivité. Et puis, il y a tout un tas de références aussi. Il y a l'ADEME. Aujourd'hui, c'est très important. Il y a un guide qui s'appelle « Rafraîchir les villes ». Avec une présentation de solutions variées. Il y a aussi Adeptaville, c'est ça ? Guide des ombrières urbaines, vous connaissez, vous, sûrement ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est Adeptaville, c'est fait par... Alors, c'est pas de bêtises. C'est tenu par l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est une initiative qui permet de proposer des solutions pour s'adapter au changement climatique. Donc, il y a toutes les aides financières possibles, une carte des solutions... et puis des ressources.
Alors sinon, Hicham, quels sont vos projets de développement ? Alors puisque votre entreprise maintenant s'appelle 420 arbres, donc vous nous avez expliqué que c'était à peu près 421 arbres par terrien, est-ce que vous voulez aller jusqu'à changer le nom, jusqu'à 1000 arbres par terrien ? Non, plus sérieusement, quels sont vos projets ?
En fait, cette année, on a axé énormément sur la partie média. Delgreen qui nous permet en fait d'être le, on va dire la partie création de contenu pour montrer quelles sont toutes les solutions, donc de sensibilisation et de montrer les cas d'utilisation possibles en vue d'inspirer de nouveaux projets. Ça c'est la partie Delgreen qui fait partie bien évidemment de 420 arbres. Et 420 arbres, on accompagne bien évidemment les acteurs privés et publics à trouver les meilleures solutions de végétalisation en vue du contexte du territoire.
Alors concrètement, vous, je suis une collectivité territoriale, je vous appelle, bonjour Hicham, voilà, j'ai besoin de vous, je voudrais rafraîchir ma ville. Donc vous venez, vous faites un audit, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut tout à fait faire un diagnostic, par exemple des îlots de chaleur, envisager quelles sont les problématiques à identifier déjà sur votre territoire, soit dans un quartier. Et puis, une fois que ce diagnostic est fait, on a tout un ensemble de partenaires qui travaillent avec nous et qu'on pourra activer, solliciter pour pouvoir trouver la meilleure solution de rafraîchissement ou de végétalisation. Parce qu'effectivement, on parle de végétalisation, mais elle est souvent, comme vous avez pu le mentionner par les exemples, à d'autres solutions, qu'elles soient des solutions vertes, des solutions bleues ou grises. Voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, Hicham Nakla, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cette première émission Mission Planète Terre de la saison 2025-2026. On vous souhaite vraiment bonne chance dans tout ce que vous faites. Et puis, pour rappel, donc, vous souhaitez étendre vos actions à d'autres régions que celle de Montpellier, bien sûr, et sur tout le territoire. Et vous souhaitez aussi vous impliquer davantage de citoyens et d'acteurs locaux dans les campagnes de végétalisation. Donc 420 arbres agit directement sur nos environnements urbains en réduisant les îlots de fraîcheur, en améliorant ainsi le confort des habitants, en facilitant aussi la gestion des eaux pluviales grâce à des sols réimperméabilisés, et puis en renforçant, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le temps passe très vite, en renforçant la biodiversité urbaine et en réintroduisant des espèces végétales et animales. Voilà, je vous laisse conclure en un mot, Hicham.
Je suis ravi, merci beaucoup Olivier pour cette invitation. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a le site 420, mais aussi delegreen.fr, où là vous pouvez retrouver toutes les éditions de la newsletter qui est aujourd'hui publiée depuis 5 ans. Et puis les invités du podcast, des invités passionnants, comme vous avez pu le dire, des architectes, des urbanistes, des responsables du paysage, des paysagistes, et de nombreux invités qui devraient arriver dans les prochaines éditions.
Merci Hicham Nakla, bonne fin de journée. Je remercie Francky qui m'accompagnait et qui réalise cette émission. Et je vous dis à dans 15 jours.